Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les encéphalites auto-immunes. Et pour évoquer cette maladie rare chez l'enfant, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Kumaran Deva. Professeur Deva, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Professeur Deva, vous êtes neuropédiatre, chef du service de neuropédiatrie à l'hôpital Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre. Vous coordonnez le centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle, le MIRCEM, de la filière Brain Team. Et vous êtes également référent européen pour les maladies neuro-immunes de l'enfant, pour l'ERN RITA. Alors pour débuter notre entretien, professeur Deva, quelles sont les spécificités de l'encéphalite auto-immune chez l'enfant ?
Les encéphalites auto-immunes chez l'enfant vont avoir certaines particularités en effet. Et parmi ces particularités, il y en a deux qui sont vraiment spécifiques, que sont donc la régression brutale en fait de l'enfant. Encore une fois, la définition de l'encéphalite, vous l'avez déjà probablement dit dans d'autres podcasts, c'est que c'est un enfant qui va bien et brutalement, donc il y a une dégradation qui survient. Cette dégradation, c'est souvent des troubles de la conscience. Et donc, chez l'enfant, sur le plan clinique, on va retrouver donc cette régression brutale et aussi des mouvements anormaux qui peuvent être assez spécifiques. Dans les mouvements normaux, les tics ne vont pas rentrer dedans, hein, par contre. Hein. Donc ça, c'est vraiment les critères de ce qu'on appelle en fait les critères de Cellutti et Hall qui ont été définis donc en 2020. Hein. Donc vraiment quelque chose d'assez particulier. En dehors de cela, bien sûr, il y a les trucs classiques, les troubles cognitifs, le déficit focal, les troubles de la conscience, les troubles psychiatriques aussi qui peuvent être présents. Et puis bien sûr, les crises convulsives non expliquées. Donc globalement, ça, c'est l'ensemble des symptômes et la spécificité viendrait donc sur ces deux points que je vous ai soulevés tout à l'heure.
Et quelles sont les circonstances de diagnostic les plus fréquentes chez ces enfants ?
Ça peut toucher tous les enfants. L'encéphalite auto-immune est vraiment la deuxième plus grosse en termes de fréquence encéphalite en fait, chez l'enfant. Et ça touche en fait à tous les âges. Et généralement, on commence à s'inquiéter, on commence à suspecter en fait, une encéphalite auto-immune lorsque, d'une part, donc, un enfant qui va bien et qui brutalement présente en fait des symptômes neurologiques dont je viens de vous dire, et cela donc peut survenir à n'importe quel âge. Et souvent, ces symptômes peuvent aussi parfois durer. Donc, un enfant qui était normal auparavant et qui brutalement présente en fait des troubles du comportement ou bien une agitation ou bien même des difficultés en fait cognitives en fait qui vont commencer à apparaître alors qu'il était complètement normal auparavant, il faut qu'on suspecte en fait cette encéphalite. Et puis souvent vous allez avoir aussi des contextes un peu de fièvre ou complexes en fait qui peuvent survenir durant cette période. Donc, bien sûr, donc les enfants, quand ils vont présenter en fait cette modification du comportement ou bien un changement de ce qu'ils étaient auparavant, les parents, bien sûr, vont déjà le remarquer ou bien l'école aussi parfois va le remarquer et va rapporter donc auprès des parents. Et souvent, ces enfants-là sont vus aussi aux urgences parce que les gens ne comprennent pas pourquoi brutalement un enfant qui allait bien présenterait en fait cette modification du comportement ou bien ces crises convulsives qui sont complètement non expliquées ou bien même ces mouvements anormaux.
Et ensuite, professeur Deva, quelle prise en charge proposer à ces jeunes patients ?
La prise en charge va être assez bien codifiée actuellement. Donc, quand on suspecte en fait un enfant qui vient pour une encéphalite auto-immune, d'abord, on essaye donc d'éliminer toutes les encéphalites les plus fréquentes, que sont donc les encéphalites infectieuses. Une fois qu'on a éliminé ces encéphalites infectieuses, on va commencer donc à rechercher en fait les encéphalites auto-immunes. Généralement, c'est des enfants que l'on va voir donc aux urgences et puis ensuite qui vont être suivis, donc qui vont être hospitalisés dans un service de pédiatrie ou de pédiatrie de surspécialité, en neuropédiatrie par exemple. Et puis ensuite, on va donc regarder comment l'enfant évolue. Donc, soit l'on a donc le diagnostic, les plus fréquemment, donc, on peut trouver donc dans les encéphalites auto-immunes, on trouve souvent en fait des anticorps. Et dans ce cas-là, donc, c'est une encéphalite auto-immune avec un auto-anticorps bien identifié. Et donc, la prise en charge va être un peu orientée par rapport aux anticorps que l'on trouve. Il peut s'agir, par exemple, une encéphalite à anticorps anti-récepteur MDA. Dans ce cas-là, on sait qu'il faut qu'on commence en fait plus ou moins avec rapidement à mettre en place une thérapeutique immunosuppresseur qui peut être éventuellement donc le décortiquer. Corticoïdes, puis ensuite des plasmaférèses et ou des immunoglobulines ou bien même d'autres types de traitements de type anti-CD20. Et donc, c'est quelque chose qui est assez bien codifié aujourd'hui. Ou bien, si on voit que c'est assez complexe, qu'il n'y a pas d'auto-anticorps. Des fois, malheureusement, on ne peut ne pas avoir en fait d'auto-anticorps. Et dans ce contexte-là, on essaie d'être encore plus général et puis aussi de proposer donc des traitements immunosuppresseurs un peu plus larges pour essayer de contrôler le plus rapidement possible en fait ces thérapeutiques. Vraiment, aujourd'hui, on essaie d'être donc le plus agressif possible, en fait, pour pouvoir traiter le plus tôt possible, en fait, ces symptômes. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile quand on a donc des auto-anticorps que quand on n'en a pas.
Alors, pour conclure, professeur Deva, au-delà de cette phase d'urgence, quel est le suivi et l'accompagnement au long cours pour ces enfants ?
Bien sûr, donc, dans la phase d'urgence, il y a une situation assez complexe pour les parents, etc., parce que même pour les médecins, pour essayer de traiter le plus tôt possible et d'essayer d'améliorer le plus tôt possible, en fait, ces troubles du comportement, voire même des fois ces mouvements anormaux qui peuvent être très déroutants, en fait, hein, pour à la fois les parents et les soignants. Et une fois que cette phase aiguë peut être soit courte, et parfois, ça peut être très long. Et une fois qu'on est sorti, il y a une deuxième phase, en fait, qui est encore plus longue. C'est toute la phase de récupération, en particulier sur le côté cognitif. Sur le côté moteur, beaucoup d'enfants, quand ils font donc des encéphalites auto-immunes à auto-anticorps bien identifiés, en particulier les NDR-récepteurs, les enfants récupèrent très bien sur le plan moteur quand il s'agit donc de quelque chose qui est complètement isolé en termes de pathologie. Et la récupération, bien sûr, motrice va être très impressionnante, les parents sont contents, mais le côté cognitif est à prendre en compte et cela risque donc de prendre beaucoup plus de temps. Et là, on aura besoin en fait d'une part de l'aide des rééducateurs et en particulier les neuropsychologues, les psychologues, voire même des ergothérapeutes et des psychomotriciens qui vont intervenir en fait pour essayer de stimuler l'enfant et d'améliorer en fait le côté psychothérapeutique et aussi d'autres types de rééducateurs. On aura aussi besoin en fait de l'école, du soutien de l'école pour essayer d'aménager en fait la scolarité de ces enfants qui parfois peut être aussi assez complexe en fait, surtout chez les tout petits. Parfois, ils peuvent avoir donc des troubles du langage pour lesquels donc les orthophonistes vont intervenir et aussi des aménagements seront absolument nécessaires pour aider donc ces enfants à l'école. Donc vraiment quelque chose qui doit se mettre en place au long cours et en particulier sur le côté cognitif.
Eh bien merci infiniment professeur Deva de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les encéphalites auto-immunes. Quant à nous chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !